Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, 2 heures de médias et de culture au sens large, très large. Tous les médias, toutes les formes de culture. Après le journal des médias et le journal de la culture, on va parler lecture avec un conseil, puis jeux vidéo. On va répondre à cette lancinante question. Pourquoi les jeux de rugby sont-ils tous nuls? Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct. Vous pourrez évidemment podcaster toute ou partie de l'émission ou la moitié qui vous manque sur europe1.fr. Notre info média, comment mieux protéger les auteurs, que ce soit des auteurs de séries télé, de films ou même de bandes dessinées. La moitié vit en dessous du SMIC. Un rapport a été remis à ce sujet au ministère de la Culture. On va le décortiquer avec vous et dire ce que ça va changer pour nous qui regardons, qui écoutons. Nos invités, un auteur justement, Monsieur Poulpe, inclassable homme de télé. Il a présenté les recettes pompettes sur YouTube, il a dessoulé, il a présenté Crac Crac sur Canal+. Il revient avec une émission à lui, Poulpovision, un podcast et une BD, la première BD dont vous êtes, non pas le héros, mais le crayon. Enfin, Jean-Louis Aubert, qui s'apprête à faire la tournée des Zéniths avec son nouvel album Refuge, album qui va jouer et pas seulement ces titres-là, dans une étrange configuration, puisqu'il sera sur scène en chair et en os, mais avec aussi son hologramme, et même parfois plusieurs. Mais il sera avec nous en vrai. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, elle aussi est vraie. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Et lui aussi est vrai. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
C'est le journal des médias avec vous. Qu'est-ce que vous avez ce matin au menu?
Facebook qui se prépare pour les municipales, BFM qui décroche le premier gros scoop de l'année, Kobe Bryant va-t-il devenir un logo? Et gros suspense, qui sont les héroïnes des 11-14 ans?
Mais Cyril, on commence d'abord par les audiences télé d'hier soir. Qu'est-ce que les Français ont regardé à la télévision?
Ils ont regardé France 3, le téléfilm Meurtre au pays d'Oléron. 4 200 000 téléspectateurs devant France 3. C'est un peu plus de 20% de part de marché. Deuxième position pour Magnum, la série de TF1. 3 100 000 téléspectateurs. Ça continue de baisser pour Magnum. C'est 400 000 téléspectateurs de moins que la semaine dernière. Troisième position pour M6 avec son émission « Qui veut être mon associé ?». 1 700 000 téléspectateurs ont regardé le programme de M6. C'est stable par rapport à la semaine précédente. Et un mot quand même sur la soirée spéciale de France 2 consacrée à l'antisémitisme. C'est une déception, petite déception quand même. En termes d'audience, en tout cas pour France 2, il n'y avait que 1 100 000 téléspectateurs devant la 2.
Mais un sujet pas facile et ambitieux et vraiment très difficile. Les élections municipales approchent, c'est le journal des médias qui démarre. Tous les médias préparent leur dispositif. Et sur les réseaux sociaux également, ça se prépare, Cyril.
Hier matin, Facebook avait convié la presse afin d'expliquer comment l'entreprise entendait, je cite, « préserver l'intégrité des élections municipales ». Alors, n'écoutant que notre courage, nous nous sommes rendus sur place, car on sait aujourd'hui que c'est aussi sur ces plateformes que se jouent les élections. Et une des grandes questions qui se pose désormais, c'est comment endiguer la propagation des fake news. Nous avons demandé à Anton Battesti, le responsable des affaires publiques de Facebook France, de nous dire comment l'entreprise entend modérer ce qui est mis en ligne sur ses pages. Il est au micro de Clément Le Saffre.
De manière générale, la régulation des contenus est un sujet incroyablement compliqué et qui pose beaucoup de problèmes politiques et démocratiques. Et donc, nous ne voulons pas décider tout seul dans ces domaines. Et donc, c'est pour ça que nous appelons régulièrement de nos voeux les pouvoirs publics à légiférer en la matière d'une manière qui permette de trouver les solutions les plus adaptées. Et c'est pour ça que, oui, on s'est parlé, on se parle et on continuera à se parler de ces sujets et surtout à y travailler ensemble.
Facebook ne veut pas être l'arbitre de la vérité, une position de plus en plus contestée par la classe politique dont une partie appelle Facebook à prendre ses responsabilités. Mais à en croire Anton Battesti, le réseau social aux 2,5 milliards d'utilisateurs a déjà fait beaucoup pour améliorer son environnement.
Effectivement, depuis 2016, ce que nous avons fait, c'est d'investir massivement dans des moyens humains et technologiques qui permettent de régler plusieurs problèmes. Le premier, ce sont la lutte contre les faux comptes, qui sont des sources potentielles de fausses informations. Et par ailleurs, en matière de fausses informations, nous avons mis en place des partenariats de fact-checking et aussi de l'éducation auprès des utilisateurs qui permettent de limiter ce type de phénomène.
Reste une question ô combien stratégique. Facebook est-il un média? La réponse du responsable des affaires publiques de Facebook France, toujours au micro de Clément Le Saffre.
Facebook n'est pas en tant que tel un média. Nous avons 35 millions d'utilisateurs en France et j'ai envie de dire donc 35 millions de petits médias. C'est-à-dire chacun est diffuseur d'informations sur la plateforme. Mais tant bien même, nous voulons prendre notre part dans cette lutte contre les fake news et donc d'une manière qui soit adaptée à notre service. Nous diffusons des informations auprès de ces utilisateurs, soit vous l'avez mentionné nous-mêmes via les dates des élections, soit en partenariat avec d'autres, en les aidant justement à tirer le maximum d'impact possible de l'effet de levier que représente un réseau social aussi important.
Vous êtes un média, je suis un média, Céline est un média, tout le monde est un média, et si tout le monde est un média, alors Facebook n'est pas un média. Voilà un débat qui va agiter encore longtemps les équipes de Facebook d'un côté et les pouvoirs publics de l'autre.
Et Cyril, voilà une drôle d'information. Angelina Jolie se met au décryptage de l'information.
Cette idée surprenante est à mettre au crédit de la BBC. Le groupe audiovisuel anglais a décidé de faire appel à la comédienne américaine pour produire un programme hebdomadaire qui doit permettre de comprendre comment se fabrique l'information et apprendre à détecter les fake news. Une émission pour les jeunes adolescents, mais pas seulement les ados anglais. La BBC annonce déjà que ce programme sera diffusé sur ses chaînes internationales, traduit dans 42 langues, et même mis en ligne sur la chaîne YouTube BBC My World. Alors Philippe, vous allez me demander que
vient faire Angelina Jolie dans cette affaire.
Voilà une excellente question, Philippe. Et la réponse vient de la bouche même de la star hollywoodienne. Dans un communiqué publié par la BBC, Angelina Jolie dit qu'en tant que parent, elle est heureuse d'apporter son soutien à un projet qui doit permettre aux enfants d'en apprendre davantage sur les autres enfants de la planète et qu'elle espère que cette émission leur servira d'outil pour mieux trouver les informations dont ils ont besoin. Angelina Jolie sera associée à Microsoft pour la production de cette émission.
Cyril, la mort ce week-end du basketteur Kobe Bryant continue de provoquer de nombreuses réactions.
Ce matin, je ne vous parlerai pas d'une nouvelle déclaration, mais d'une idée d'un certain Nick, un internaute fan de l'ancien joueur des Lakers. Et Nick aimait tellement Kobe Bryant qu'il voudrait que la NBA, c'est-à-dire la Ligue de basket américaine, remplace son logo historique, où figure la silhouette d'un basketteur, par la silhouette de Kobe Bryant. Détail amusant, le joueur qui a servi à créer le logo s'appelle Jerry West, surnommé depuis The Logo. Et ce Jerry West, ce n'est pas n'importe qui. Non seulement il est lui aussi un ancien joueur des Lakers de Los Angeles, mais il a également joué un rôle déterminant pour faire venir Kobe Bryant aux Lakers. Alors, est-ce que Black Mamba pourra remplacer The Logo? C'est donc l'espoir de Nick qui a décidé de se donner les meilleures chances de réussir en lançant une pétition en ligne sur la plateforme change.org. Et a priori, il commence à se faire connaître. Au moment où on se parle, plus de 2 650 000 personnes ont déjà signé la pétition.
Et puis Cyril, dans le métier, c'est ce qu'on appelle un gros coup.
Et ce gros coup, c'est pour BFM TV. La chaîne Info est la première à décrocher un entretien avec Gabriel Matzneff. La journaliste Alexandra Gonzalez a retrouvé l'écrivain qui a quitté la France pour s'installer en Italie après la sortie du livre de Vanessa Springora, Le Consentement. Springora y raconte comment elle est tombée sous l'emprise de Matzneff alors qu'il avait 50 ans et elle 14. La journaliste Alexandra Gonzalez de BFM a donc retrouvé l'écrivain. Elle explique les conditions de ce tournage.
Nous sommes allés à sa rencontre pour l'interroger. Il a accepté ses images à condition de ne pas montrer son visage. Et il a accepté que l'on diffuse des extraits de notre conversation enregistrés avec ce téléphone. Il répond d'abord à Vanessa Springora, qu'il accuse dans son livre d'emprise et de viol quand elle était adolescente. Il refuse la réalité et la souffrance qu'elle décrit.
Et malheureusement pour nos auditeurs, nous ne pourrons pas vous faire écouter les réponses de Gabriel Matzneff à cause de l'enregistrement. Ce qu'on apprend, c'est qu'il refuse de lire le livre de Vanessa Springora, qu'il qualifie de personne lumineuse et veut se rappeler leur magnifique et durable histoire d'amour. Si vous voulez voir cet entretien avec Gabriel Matzneff, c'est sur bfmtv.com.
Et on sait que ce n'est pas Gabriel Matzneff qui sont les héroïnes des enfants de 11 à 14 ans.
Le magazine pour enfants Okapi dévoile ce matin le classement des femmes préférées des 11-14 ans. Alors, qui sont leurs héroïnes?
Oh, maman.
Le chant de Pierre-Paul Jacques, rien d'autre que les mamans.
Mais
car oui,
oui,
ce sont les mamans qui arrivent en première position,
ah oui,
des héroïnes des 11-14 ans.
Devant Mbappé.
Devant Mbappé.
Et ça vous étonne.
Bah oui, parce qu'on demande les héroïnes.
Oui. Héroïnes,
les
femmes. Vous avez raison.
Et derrière les mamans, on trouve presque sans surprise la militante suédoise Greta Thunberg et le phénomène musical de l'année, la chanteuse belge Angèle. Pour l'anecdote, sachez que ce classement est légèrement différent selon que l'on interroge des filles ou des garçons. Pour les filles, c'est Greta Thunberg qui arrive en pole position, alors que pour les jeunes garçons, rien ne vaut leur chère maman.
Et là, je peux dire ma phrase, devant Mbappé.
Devant Mbappé. Un classement à retrouver aujourd'hui dans le bimensuel Okapi.
Merci beaucoup Cyril Lacarrière. À demain pour un nouveau journal des médias.
Restez bien à l'écoute puisque tout à l'heure, on vous fera gagner des places pour le concert d'Angèle. À suivre l'infomédia du jour où on parlera du rapport Racine, un rapport commandé par l'État qui met en évidence le problème de la précarité socio-économique des artistes auteurs et dévoile une série de recommandations. On en parle avec nos invités dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média. Philippe Bondel.
Et c'est alors Philippe de l'Info Média du jour.
L'État ne peut assister sans réagir à la paupérisation des artistes auteurs. Voici ce qu'on peut lire noir sur blanc dans le dernier Racine paru il y a une semaine. Un rapport signé Bruno Racine, jeu de mots, pas Jean évidemment, intitulé L'auteur et l'acte de création. Cet ancien président du Centre Pompidou et de la BNF a été missionné par le ministre de la Culture Franck Riester en avril dernier pour plancher sur la situation des auteurs-artistes. 9 mois plus tard, il rend donc un rapport de 140 pages avec 23 recommandations pour notamment lutter contre la précarité des auteurs qu'ils écrivent pour la bande dessinée ou pour la télévision. Et pour éplucher ce rapport avec nous ce matin, Patrick Rode, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général de la SACD, la Société des auteurs-compositeurs dramatiques. À vos côtés, Pierre-Yves Mora, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes scénariste pour la télévision et membre de la Guilde des scénaristes, syndicat qui regroupe 350 scénaristes de cinéma, de fiction, d'animation. Tout d'abord, Patrick Rode, quel état des lieux faites-vous ?
Nous félicitons que le gouvernement ait confié à Bruno Racine une mission de réflexion sur la condition des auteurs. Je vais juste préciser que la SACD, vous parliez de Jean Racine, a été créée par Beaumarchais. On représente aujourd'hui plus de 50 000 auteurs, dont 15 000 scénaristes et réalisateurs qui travaillent en fiction, en cinéma et en animation. On partage complètement les constats du rapport Racine. Le premier, c'est la paupérisation, comme vous venez de le rappeler, et qui est manifeste et qu'on constate dans toutes les formes de création. Le deuxième, c'est la relation extrêmement difficile au quotidien qu'ont les auteurs dans leur pratique professionnelle et avec leur employeur, entre guillemets, qui est le producteur avec lequel et donc il y a en France une asymétrie complète entre le niveau de protection dont les producteurs bénéficient dans leurs relations avec les chaînes, les radios, et puis la protection quasi inexistante dont bénéficient les auteurs dans leurs relations avec les producteurs.
Pierre-Yves Mora, c'est quoi la réalité du métier de scénariste tel que vous la pratiquez ? Vous travaillez dans quelles conditions matérielles ?
Alors, La réalité de la condition de scénariste, le principal point que je vois, le problème qu'on a, c'est que notre rémunération n'est pas du tout corrélée avec le travail réel qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a une rémunération qui normalement est basée sur le succès de l'œuvre, c'est-à-dire on a un pourcentage sur les revenus futurs de l'œuvre. On a heureusement des minimums garantis, mais ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas du tout corrélé avec notre travail, notre temps de travail. C'est-à-dire qu'on peut réécrire 10 fois un même scénario, ça peut nous prendre 3 mois comme ça peut nous prendre 3 ans, on sera payé toujours de la même façon.
Le pourcentage, c'est combien ?
Le pourcentage de ?
Que vous touchez sur une œuvre ?
Alors, le pourcentage en général,
j'ai posé une mauvaise question.
C'est moins de 1%.
Excusez-moi, je voulais réagir là-dessus parce qu'on a fait une mission avec des scénaristes aux États-Unis pour comparer justement ce qui se passe pour les scénaristes ou les réalisateurs aux États-Unis et en France. Et aux États-Unis, il y a une espèce de convention collective entre les producteurs et les auteurs qui prévoit justement que chaque fois qu'un auteur réécrit un projet de scénario, ce qui n'est pas illégitime si le projet, pour diverses raisons, doit être modifié, à chaque fois aux États-Unis, il est prévu une autre rémunération, alors qu'en France, effectivement, les auteurs travaille jusqu'à ce que le projet soit
greenlighté.
Voilà, il travaille
greenlighté, ça veut dire qu'il a obtenu la lumière verte. Patrick Rode, Bruno Racine vous a consulté. Est-ce qu'il a retenu vos propositions ? Et celle-ci en l'occurrence, par exemple ?
Il nous a consulté. Certaines des propositions qu'on a faites ont été retenues par Bruno Racine et par le ministre et le gouvernement dans le projet de loi audiovisuel.
En l'occurrence, celle-ci, le fait de chaque fois qu'on travaille, on est payé et non pas on travaille pour rien, si le Réal vous fait refaire 10 versions du même texte.
Alors, c'est pas tant un problème.
Alors là, c'est un peu plus en détail. C'est-à-dire que ça rentre dans le cadre de négociations qu'on est en train de faire avec les producteurs pour encadrer justement notre métier. À titre d'exemple, justement, aux États-Unis, ils ont un document de 600 pages pour encadrer toutes les relations. Et nous, on a pour l'instant 4 pages. Et donc on négocie depuis 2 ans avec les producteurs, mais c'est pas facile du tout. Donc là, l'avantage du rapport Racine, c'est que justement de pointer ce problème-là, de la représentativité des organismes professionnels et de la nécessité absolue de faire des négociations qui vont aboutir avec les producteurs.
Mais j'ai une question pour Pierre-Yves Mora, juste une seconde. Ça veut dire que vous pouvez vivre des mois, voire des années sans toucher un centime du travail sur lequel vous êtes focalisé. Là, en ce moment, vous êtes en pleine écriture de la saison 4 de L'Art du Crime qui sera diffusée sur France 2. Vous écrivez maintenant, vous serez payé quand ?
Alors, on sera payé. L'avantage quand même en audiovisuel, c'est qu'on bénéficie, contrairement à d'autres auteurs, d'un minimum garanti. C'est-à-dire qu'on a quand même une partie qu'on touche avant l'exploitation de l'œuvre.
Et le solde à la diffusion.
Mais le solde à la diffusion, tout à fait.
Et ce qui arrive parfois, la série est diffusée plus tard, vous êtes payé plus tard.
On est
vous
payé êtes tributaire plus tard. Si elle n'est pas diffusée, ce qui peut arriver, on n'est pas payé du tout.
Alors une deuxième source de revenus des auteurs lorsqu'ils n'en sont pas à leur première œuvre, c'est le rôle de la SACD, c'est qu'au titre de leurs œuvres passées, chaque fois qu'elles sont diffusées sur des chaînes ou rediffusées, il y a des droits d'auteur qui sont versés par la SACD. Donc suivant les auteurs et les métiers, il y a 40 à 50% des revenus d'un auteur qui sont gérés via la relation avec le producteur que tu viens de décrire et l'autre partie qui est gérée par la SACD tout au long de la vie de l'auteur.
Est-ce que c'est équitable les revenus que touche l'auteur par exemple les revenus que touche le réalisateur parce que c'est beaucoup de travail dans les deux cas, est-ce qu'ils sont sur un pied d'égalité ou pas du tout ou est-ce que l'auteur c'est la portion congrue?
Alors les scénaristes sont des auteurs, les réalisateurs aussi.
Oui, c'est ce que je voulais dire. Alors celui qui écrit et celui qui filme.
Ben, ils sont tous les deux co-auteurs, chacun apporte sa contribution à la création.
J'ai mal posé ma question. Est-ce que c'est 50-50 ou est-ce que c'est 10-90 avec 10% pour l'auteur et 90% pour le réalisateur.
Ça dépend des secteurs. Je sais qu'en cinéma, là, c'est largement disproportionné.
Voilà, c'est le parent pauvre.
Historiquement et culturellement, le réalisateur est bien plus favorisé que le scénariste.
Et en télévision ?
En télévision, ça se rééquilibre un petit peu, d'autant plus maintenant avec la montée en puissance des séries qui prend aussi du poids, même d'un point de vue symbolique et culturel. Les créateurs de séries arrivent petit à petit à s'imposer aussi comme créateur à part entière de l'œuvre. Et donc, il y a un rééquilibrage qui se fait.
On va justement parler des séries télé. On va faire un tour aux États-Unis pour voir comment ça se passe, par exemple, sur une série comme Game of Thrones et comparer avec la France.
Bruno Racine, ancien président de la Bibliothèque nationale de France, a remis son rapport au ministre de la Culture, Franck Riester, avec un constat sans appel. La situation des artistes-auteurs se dégrade en France. On continue à en parler dans l'infomédia du jour avec nos invités dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bruno Racine a remis son rapport au ministre de la Culture intitulé « L'auteur et l'acte de création » où il expose en détail la situation précaire des artistes-auteurs dans l'Hexagone et il propose 23 mesures qui, si elles étaient appliquées, amélioreraient leur situation. On en parle ce matin dans l'infomédia du jour avec vos invités Philippe, Patrick Rode, secrétaire général de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques et Pierre-Yves Mora, scénariste pour la télévision et membre de la Guilde des scénaristes.
Il y a deux manières dont les auteurs sont considérés. Il y a la situation, on l'a dit, financière et aussi il y a la situation morale. Je vais raconter une anecdote que nous avait racontée ici Juliette Salle, qui est une scénariste, c'est la scénariste du film Belle et Sébastien. Il y avait un festival en Italie de mémoire, je cite Locarno, où ils avaient voulu que quelqu'un de l'équipe de Belle et Sébastien aille là-bas. Et le réalisateur n'était pas libre, les comédiens du film n'étaient pas libres. Et donc, elle s'est proposée, elle dit « Moi, je peux y aller. » Et vous savez qui ils ont envoyé le chien. Voilà. Et donc,
sans
pour
commentaire.
Eux, la scénariste, qu'ils étaient deux à faire ce scénario, c'était pas assez bien. C'est la manière dont vous sentez perçu parfois.
Oui, bah c'est sûr qu'encore une fois, en France, historiquement, les scénaristes sont un petit peu déconsidérés par rapport aux réalisateurs, parce qu'il y a tout ce poids du cinéma en France. Après, comme je le disais, grâce à la place que prennent les séries actuellement, la montée en puissance, c'est-à-dire on en parle de plus en plus, ça prend un poids culturel. De fait, obligatoirement, les scénaristes prennent un peu plus de poids parce que si au cinéma, c'est le réalisateur qui est l'auteur et qui est le roi, en matière de série, de fait, c'est le scénariste.
Dans le cinéma français, c'est 3% du budget, je cite de mémoire, et dans le cinéma américain, c'est 10% du budget. Je lisais un papier sur Game of Thrones, par exemple, comme scénariste, ils ont un showrunner, une équipe de 4 à 8 scénaristes, avec en plus des petites mains qui écrivent des petites scènes ou des bouts de dialogue. Pas étonnant que ce soit aussi bluffant. Ça, c'est impossible en France, on n'a pas ce modèle économique-là.
Bah on a fait une étude, la CACD, avec le Centre National du Cinéma là-dessus, qui montre, c'est les chiffres que vous citez, et c'est un des enjeux de la réforme de l'audiovisuel et des sujets sur lesquels travaille le nouveau président du CNC, Dominique Boutonnat, c'est de renforcer les investissements des producteurs dans l'acte de création, dans la préparation des œuvres, et d'augmenter le financement qui est consacré à ça. Je reviens sur le droit moral, qui est
Allez-y.
Un sujet essentiel, tous les auteurs se félicitent du projet de loi qui a été déposé au Parlement, qui vise à renforcer la protection offerte au titre du droit moral, à la fois vis-à-vis du CNC, les producteurs, à l'avenir, la loi prévoira qu'ils ne pourront bénéficier d'aide publique, comme le propose M. Racine, que s'ils respectent bien le droit moral. Et de même, les chaînes qui ont des obligations qui sont contrôlées par le CSA, les œuvres au titre qu'ils présentent au titre de ces obligations devront elles aussi respecter le droit moral. Donc il y a une véritable prise de conscience qui va se concrétiser dans le projet de loi tel qu'il est présenté au Parlement sur ces deux questions.
Oui, Pierre.
Moi, je voulais juste rajouter par rapport à la comparaison aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'en France, comme on bénéficie de moins de moyens sur l'écriture, en fait, on n'est pas capable de mobiliser une équipe de scénaristes juste sur une série. C'est paradoxal, mais dans le système français, jusqu'à maintenant, un scénariste est obligé de multiplier les contrats pour pouvoir travailler et pour avoir une espérance de gain, si vous voulez. Et c'est vrai que ça se fait vraiment au détriment des délais d'écriture et même de la qualité.
Vous-même, concrètement, Pierre-Yves Mora, vous travaillez sur combien de projets en ce moment ?
Alors moi, actuellement, je suis arrivé en haut, c'est-à-dire je suis créateur de ma série, donc enfin, je peux travailler uniquement sur une série, sur l'art du crime. Mais par exemple, pour développer cette série, on a mis 5 ans à la mettre à partir du moment où on a signé le premier contrat, le moment où on a tourné, on a mis 5 ans. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez d'argent développé pour qu'on fasse ça à plein temps. On a dû multiplier les contrats, travailler sur d'autres séries. Et donc, c'est un des gros problèmes actuellement pour les scénaristes. C'est-à-dire que du fait du manque de moyens, on ne peut pas se consacrer entièrement à une série.
Patrick Rode, autre sujet d'actualité, c'est la réforme des retraites. Et les auteurs de la SACD ont publié un communiqué dans lequel ils font part de leur inquiétude. Qu'est-ce que cette réforme changerait pour les auteurs ?
Alors, on a découvert effectivement la semaine dernière, on avait participé aux concertations organisées par le gouvernement et on a découvert dans le texte la semaine dernière plusieurs dispositions, notamment la disparition de la caisse de retraite spécifique aux auteurs qui gère les régimes de retraite complémentaires.
C'était un des 42 régimes spéciaux ?
C'était pas du tout un régime spécial puisqu'il ne coûte rien à l'État. Et ouais. Il a été créé par les auteurs, pour les auteurs et il n'y a aucun financement de l'État. Mais ça gère effectivement toutes les retraites complémentaires des auteurs et ça contribue significativement à leur retraite. Et ce que prévoit le projet de loi, c'est qu'au-delà d'une certaine somme, les auteurs cotiseront, auront beaucoup moins de droits à retraite et donc leur retraite future, pour ceux qui sont nés après 1975, baisserait fortement si le projet tel qu'il a été présenté n'est pas amendé. Et deuxième élément, il prévoit la disparition de cette caisse sur laquelle l'ensemble des auteurs souhaitaient s'appuyer pour construire un régime complémentaire au-delà de la retraite universelle pour compléter leur retraite. Donc là, c'est une vraie source d'inquiétude et ce que souhaitent les auteurs, c'est que de même que le gouvernement est en train ou a déjà pris en compte les spécificités de la profession d'avocat en maintenant la caisse du barreau, on souhaite qu'il en aille de même pour les auteurs.
Vous avez pu en parler avec le ministre et si oui, que vous a-t-il dit ?
On a commencé à en parler avec le ministre, on va continuer à en parler avec le ministre, le gouvernement et les parlementaires, c'est un sujet majeur, on est en contact étroit avec le ministre et son cabinet, on l'a découvert très récemment, mais la loi va être débattue à l'Assemblée et on est très confiant sur la légitimité des demandes qu'on exprime.
Un sujet dont on a beaucoup parlé ici dans Culture Média, vous voulez en parler, Patrick Rode, un mot d'une autre bataille menée par la SACD. Vous souhaitez repousser de 2 ans la date de fermeture annoncée de France 4, qui est prévue le 9 août, juste après les Jeux Olympiques. Pour quelle raison ? Pourquoi ne voulez-vous pas que France 4, la chaîne sur la TNT, ferme et bascule sur le numérique ?
Tout simplement parce que c'est la chaîne des enfants et la SACD, les auteurs soutiennent complètement la stratégie de France Télévisions d'une offre digitalisée, d'un accès des programmes via des plateformes, des ordinateurs. Mais aujourd'hui, il y a plus d'1 million d'enfants en France qui regardent leurs programmes d'animation via la télé et à partir de août, ils devront soit basculer sur une chaîne privée comme Gulli, soit basculer sur des plateformes payantes. Et donc, on trouve que la stratégie digitale voulue par le gouvernement et France Télévisions est très bonne, mais qu'il faut la mettre en œuvre une fois qu'on est certain que la plateforme au coût est massivement regardée par les enfants français. Et deuxième élément, et c'est pour ça qu'on propose un report de 2 ans, c'est le gouvernement parallèlement a un plan de déploiement du très haut débit en France.
Ouais.
Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas recevoir dans de bonnes qualités des programmes de télé si vous n'avez pas un abonnement très haut débit.
En même temps, si le gouvernement fait ça, si France Télévisions fait ça, c'est parce que le gouvernement, la tutelle, lui demande des économies et ils sont obligés de réduire la voilure. Et Takis Candilis, qui était à ce micro il y a une semaine, disait qu'ils étaient passés de 6 000 heures à 4 000, ils passeront s'arrêteront à 4000 heures de programmes destinés à la jeunesse, mais qui ne vont pas baisser et ils vont maintenir l'investissement qui, de mémoire, est quand même assez conséquent. Ça ne vous suffit pas?
Takis Candis a tout à fait raison. C'est les chiffres qu'il vous a donnés sont justes. Et donc, ce qu'il vous a annoncé, c'est que France Télévisions avait prévu de réduire d'un tiers les programmes
de 6000 à 4000.
Des destinations des Français. Nous, on pense que les parents des Français qui payent la redevance et qui continuent à payer la redevance, la baisse d'un euro de la redevance ne justifie pas la diminution d'un tiers des programmes.
Pierre-Yves Mora, vous avez déjà écrit pour la jeunesse. Un mot, parce qu'il nous reste une minute.
Voilà, moi, je voulais juste préciser, je n'ai jamais écrit par la jeunesse, mais on en parle beaucoup au syndicat. Et c'est vrai que c'est un gros souci pour les scénaristes d'animation, parce qu'il y a une grosse partie de leur rémunération justement qui vient au moment de la diffusion sur une chaîne comme France 4, et la disparition d'une chaîne comme France 4, ça veut dire une diminution assez drastique de la rémunération.
Mais attendez, tout d'un coup, ça m'inquiète, ça veut dire que tous les gens qui ont travaillé pour un projet qui aurait dû passer après le 9 août ne seront jamais payés.
Il y a une partie de leur rémunération, comme elles vont être, si elles ne sont pas diffusées sur une chaîne hertzienne, va fortement diminuer.
On va malheureusement finir là-dessus. Merci beaucoup Patrick Rode. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la SACD et Pierre-Yves Mora, vous êtes scénariste, membre de la Guilde des scénaristes. Et quand passe votre projet sur France 2 ?
La prochaine diffusion de la saison 4, ce sera au mois de novembre normalement.
Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous en direct.
Crac crac le podcast, Poulpe aux visions ou encore Alain au pays des merveilles.
Ça vous fait rire, hein?
Ça m'étonne pas.
Ça fait rire nos invités, crac
pas
crac.
Pas étonnant d'avoir autant de projets quand on s'appelle Monsieur Poulpe, il est notre prochain invité. On l'accueille dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média ce matin, on est ravis d'accueillir Monsieur Poulpe.
On peut l'appeler que comme ça, je ne connais pas son vrai nom. Bonjour Monsieur Poulpe.
Bonjour.
Poulpe, vous étiez une vedette du web avant même que les youtubeurs existent. On vous a vu dans le grand journal de Canal, époque de Cône, dans l'émission. Vous présentez sur Canal+, vous avez présenté sur Canal+, Crac Crac, qui est devenu un podcast. On va en parler. Vous avez surtout une nouvelle émission, toujours sur Canal, qui porte votre nom. Ça s'appelle Poulpe aux visions. C'est le dimanche à 14h20 en lieu et place de Clic de Mouloud Achour, qui est passé lui en quotidienne. C'est quoi le concept de Poulpe aux visions ?
Poulpe aux visions, en fait, on fait une version alternative d'une chaîne de télé. Je reçois un invité qui va découvrir au fur et à mesure les programmes dans lesquels il va être. Donc on pourrait dire que c'est de l'impro, mais c'est, en fait c'est la vie finalement. Et il va être face à plein de comédiens qui vont faire vivre des programmes télé devant lui, quoi.
Alors il faut raconter le dispositif. Il y a un plateau tournant avec plusieurs décors. Racontez.
On enchaîne 4 décors donc c'est une grosse machinerie. On enchaîne 4 décors d'émissions télé. On finit en général par la fiction du soir, donc on essaie de suivre un peu le fil d'une journée avec le JT, une émission musicale, etc. Et ça change à chaque fois, donc les gens ne savent pas du tout à quoi s'attendre.
Alors, j'ai regardé la dernière émission, c'était le 19 janvier, l'invité était Anne-Sophie Girard. D'abord, pour qui ne la connaît pas, qui est-elle?
C'est une humoriste qui fait beaucoup de choses en télévision, en digital et tout, et puis surtout sur scène. Et Anne-Sophie, c'est quelqu'un elle est trop forte, hyper forte en impro, et du coup, c'était tellement la bonne personne pour cette émission, quoi.
Il faut raconter quelque chose, elle pleure vraiment quand elle voit arriver, parce qu'il y a un concours de Miss France.
Ouais, on lui fait faire l'élection de Miss France.
Mais c'est hyper drôle, il y a Miss France, Miss Aquitaine, elle est Miss Aquitaine, et arrive une deuxième candidate, c'est Miss Aquitaine 2. Et je me dis, mais elle se ressemble incroyablement, en plus moi je reconnais pas les visages, mais c'est sa sœur jumelle.
C'est sa sœur jumelle, ouais, Marie-Aldine Girard. En fait, les deux ont écrit un best-seller qui s'appelle La femme parfaite est une connasse, et du coup j'ai fait venir en surprise sa sœur jumelle pour refaire l'élection de Miss France, et Anne-Sophie, sous le coup de l'émotion.
C'était en vraie surprise.
Oui,
elle le
sûr.
Savait pas du
bien
tout.
Bien sûr, ouais.
Ah ben non, on sait jamais, vous savez que dans la télévision, il y a plein de fausses surprises.
Alors justement, moi je fais dans mes programmes en sorte qu'il y ait des vraies émotions à l'image pour essayer de pas faire comme les autres.
Alors vous faites une sorte de parodie du concours du meilleur pâtissier, sauf que chez vous c'est le meilleur potier. Vous appelez ça tourner ma glaise. Alors il y a deux candidats qui ont autour de potier. Il y a vous, vous êtes un des candidats. Anne-Sophie Girard, c'est l'autre candidate. Évidemment, elle a fait de la blague. Qu'est-ce qu'elle a fait avec sa terre glaise? Elle a fait une protubérance virile.
Après, c'est pas compliqué de pas faire autre chose.
On peut faire autre chose. Non, sauf quand même, on demandait une assiette avec un cavalier dessus. Donc c'était ça le cahier des charges.
Ouais.
Et alors vous, comment dire? Vous avez fait ce que vous avez un chien?
J'ai un chien.
Vous avez fait ce que peut faire votre chien dans la rue. On écoute le final.
Le meilleur potier 2019 est Anne-Sophie Girard. Oh,
bravo.
Oui, c'est le mot.
Merci. Je voudrais remercier tout le monde. Je voudrais remercier toute l'équipe parce que ça, c'est une équipe derrière, OK? Ça, c'est du talent. Voilà.
Ça,
merci.
Oui. Bon, ça s'arrête là.
Cool.
J'ai envie de dire sur une grosse merde.
Oui, Isabelle. C'est les termes techniques.
Et en même temps, est-ce que c'est une surprise?
Non, ça représente bien ma carrière.
Blague à part,
c'est vrai,
vous la trouvez comment, votre carrière?
Elle est assez touffue, on va dire.
Non, mais c'est pas une grosse merde.
Non, bien sûr. Mais il y a des petits grains quand même dedans dans ma carrière.
Il y a aussi la parodie d'une très bonne émission en aparté où on voyait pas l'intervieweur, Pascal Clark. Pendant une séquence, vous regrettez le fait qu'il y ait peu d'humoristes femmes sur scène et parmi les invités. Vous dites vouloir la parité parmi vos invités. Ça m'a étonné. Qu'est-ce qui vous en empêche ?
C'est hyper compliqué. Alors après, moi, comme je fais des programmes qui sortent un peu de la norme entre recettes pompettes, crac-crac, ouais, parler de sexualité et Poulpovision, et c'est vrai que c'est hyper compliqué d'avoir des femmes déjà parce qu'elles ne sont pas beaucoup représentées dans les médias. C'est hyper dur, encore plus dans le milieu de l'humour. Moi, j'essaie toujours de faire émerger des nouvelles humoristes.
Mais qu'on le dise, parce qu'on recevait à ce micro Françoise Laborde qui se plaignait qu'on ne voit pas assez de femmes à la télévision, et elle n'a pas tort, mais c'est difficile, elles ont du mal à accepter de venir dans vos émissions.
Je pense qu'il y a, à cause des injonctions que subissent les femmes dans les médias, il y a un truc où aussi les humoristes se disent peut-être j'ai pas ma place, donc elles vont pas essayer aussi. Mais il y a aussi, à l'inverse, les médias n'invitent pas forcément beaucoup de femmes. Ils vont aller taper les femmes les plus connues. Et c'est con parce qu'il y a plein d'humoristes émergentes qui sont hyper fortes.
Je vais parler de Crac-Crac, ce que vous en avez parlé. Vous présentiez cette émission sur Canal+, une émission qui, je cite, décrypte le sexe encrypté. C'est une jolie phrase. Il y avait des vrais dossiers. C'était quel genre de dossier que vous faisiez dans Crac-Crac ?
On prenait des grandes thématiques et on a laissé de rentrer ensuite dans le, je vais essayer de prendre des mots un peu propres, mais rentrer dans le dur des thématiques. Et là, par exemple, on a réussi à faire sur Canal+ 50 minutes sur l'anus.
D'accord.
Et c'est hyper intéressant. Il y a plein de thématiques, mais après, plus large de société comme la santé, la sexualité des personnes âgées, etc.
L'émission est devenue un podcast. Pour quelle raison ?
Parce que sur Canal+, on ne pouvait plus continuer l'émission faute de grille. Donc du coup, Canal nous a proposé de la continuer en podcast. Nous, on avait encore plein de thématiques. Et donc, c'est génial parce que le podcast marche hyper bien. Et surtout, pour le 10e numéro, on va le faire en live, en public.
Ah oui ? Ouais. Ça sera où ?
Alors, c'est la première fois que je l'annonce. Ça sera le 23 février au Théâtre de l'Œuvre. On va faire un crac-crac en public avec plein d'intervenants qui sont sur les réseaux sociaux, qui parlent de sexualité. Ils vont venir sur scène pour en parler en live auprès de gens vivants.
Mais s'il y a du monde, ça va être quoi le thème, l'amour de groupe ?
Ça va être, alors, j'ai pas encore le bon nom, mais en tout cas, ça va être un club de gens qui parlent de sexualité. Moi, je l'appelle le club du cul, mais il faut peut-être qu'on trouve un titre plus, je sais pas, Philippe, expert en médias, qu'est-ce que t'en penses ?
Un titre moins élégant, c'est ça, parce que là, le club du cul, c'est un peu Troisième République. On va entendre votre monologue de début, c'est un podcast qui a pour thème sexe et santé.
Bonjour à toutes et à tous, c'est le retour de votre partenaire sexeur, Crac Crac. C'était deux saisons d'une émission qui vous a pris par tous les trous. Un gala à Bobino, mais il manquait un orifice à remplir, le petit truc là. Et oui ! Après avoir fait le tour de la planète pour parler de toutes les sexualités, Crac Crac se réinvente et devient un podcast pour pouvoir dire encore plus de choses coquines gourmandes. On va pénétrer vos pavillons auditifs, vous émoustiller les conduits, bref, vous doigter la membrane et explorer deux fois par mois les muqueuses de notre société. Dans ce podcast, on va tâcher de parler de sexualité de façon décomplexée. On va tâcher de vous faire découvrir de nouvelles tendances cul. Et vous, en l'écoutant, vous allez tâcher vos draps.
Joli calembour avec le verbe tâcher. Merci. C'est une émission sur le sexe, sur l'humour ou le mélange des deux ?
L'idée, c'est d'apprendre en s'amusant. Il y a toujours un truc un peu tabou quand on parle de sexualité, surtout dans les médias où, en général, c'est fait de façon un peu vulgose. Du coup, nous, on s'est dit, on va essayer de l'amener de façon un peu plus chic. On a essayé de créer un écrin élégant pour parler de trucs dégueux. Mais vous, le matin, vous doigtez les membranes aussi, quand même.
Oui, mais on ne le dit pas comme ça. Vous restez avec nous, on va parler de BD.
Monsieur Poulpe est notre invité et on continue à parler de sa riche actualité dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Culture Média continue avec Monsieur Poulpe qui est notre invité ce matin et qui multiplie les projets. Philippe, Alain au Pays des Merveilles, Poulpovision, encore mon préféré, Crac Crac le podcast.
Mais que d'actualité pour ce Poulpe avec ses 8 tentacules. Une bande dessinée également qui vient de sortir, ça s'appelle Alain au Pays des Merveilles. Vous êtes co-scénariste avec David Mourier et les dessins sont signés Ariel Bitoum. Les éditions, j'adore le nom de cette maison d'édition, Une Case en Moins. Ouais. Je trouve ça absolument magnifique. On connaissait la BD dont on est soi-même le héros. Cette fois, c'est la BD dont on est soi-même le crayon.
C'est ça.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Expliquez aux gens. Moi, je l'ai vu, je l'ai lu, mais expliquez.
Est-ce que vous l'avez dessiné surtout ?
J'ai pas osé. Ouais. Parce que je trouvais que l'objet était trop beau pour tout saloper.
Faut en acheter deux, du coup.
Voilà.
La BD Alain au Pays des Merveilles, en fait, c'est une BD où le lecteur ou la lectrice va participer à la création de la BD, où il y a des cases qui ont été effacées par des méchants. Et c'est aux personnes qui lisent la BD de participer à l'écriture en dessinant des dessins qui vont avec l'histoire, ou des fois, ça va plus loin. C'est carrément écrire des dialogues dans des bulles, faire du pliage, du coloriage, etc.
Mais il faut être bon, il faut être doué.
Mais pas du tout. Justement, l'idée, c'est que tout le monde participe. C'est réveiller l'artiste endormi chez tout le monde. En gros, c'est ça l'idée. Donc, évidemment, il y a des dessinateurs de fous qui nous envoient des dessins. Mais il y a aussi des gens qui s'essayent au dessin avec la BD. C'est trop bien. Et nous, on les partage sur les réseaux sociaux et c'est un vrai kiff.
Je ne suis pas arrivé à les trouver sur les réseaux sociaux avec le hashtag. Qu'est-ce que vous avez comme matière?
En fait, en gros, donc, il y a un compte Instagram qui s'appelle Alain au Pays des Merveilles où on recense tous les dessins. Mais il y a aussi des hashtags. En fait, en chaque bas de page, quand tu fais ton dessin, tu peux le prendre en photo et mettre par exemple le hashtag page 26 Alain au Pays des Merveilles. Et ensuite, sur Instagram, tu peux taper le hashtag et voir toutes les pages 26 que tous les gens ont fait.
Il y a des trucs complètement barrés. Et par exemple, il faut reproduire une tartine de jambon. Mais vous avez mis des modèles de jambon, de pain, de tomate, de concombre avec des photos en couleur. Ouais. Mais jamais personne ne va y arriver. Alors,
personne n'a mis le jambon en photo dans une BD. Ça n'est jamais arrivé.
Ça raconte l'histoire d'un dessinateur de BD. Il s'appelle Alain. Il abandonne sa passion pour entrer au ministère de la Censure. En arrivant, il signe un document. Et le ministre de la Censure lui pose cette question, parce qu'il rencontre le ministre en personne. Vous ne voyez aucun problème à retirer des libertés aux artistes pour protéger les revenus des grosses sociétés de production? Et je me suis dit, mais en réalité, vous savez très bien d'où vient la censure. Ça ne vient pas du business, qu'au contraire est ravi de ce qui est transgressif.
Ça dépend,
du politiquement correct, la censure. Vous savez très bien d'où ça vient, la censure.
Ben, ça dépend, ça vient d'un peu partout. Et c'est vrai qu'il y a un peu de fond dans cette BD. Moi, j'ai un peu subi aussi ces histoires. Je ne vais pas crier à la censure, mais j'ai
subi. Non, mais je vais le dire, vous avez dit à Télérama, il y a deux ans. Aujourd'hui, le fait de parler de sexe, de faire des blagues misogynes, racistes, antisémites ou homophobes, en gros, le boulot de n'importe quel humoriste est devenu tabou.
Mais c'est compliqué quand on fait un humour où on est un peu borderline. On joue forcément avec les frontières et c'est toujours compliqué. C'est un exercice d'équilibre un peu compliqué, mais si on le fait bien, on est quand même rattrapé par plein de trucs un peu chiants. Donc, on vit une perte. Alors, je ne vais pas aller dans le « on ne peut plus rien dire », je ne vais pas aller là-dedans. Mais c'est vrai qu'il faut faire toujours attention à sauvegarder un peu ce truc-là. Il y a quelques semaines, on était encore en train de dire « mais moi, je suis Charlie hein !» Ouais. Alors, je pense qu'on a tendance à l'oublier les autres jours de l'année.
Alors, je ne sais pas si on peut rien dire ou pas tout dire, mais on ne peut plus boire à la télé. Je vais revenir sur les recettes pompettes, émissions qui avaient causé la joie des revendeurs d'alcool et la fureur du CSA. Vous étiez dans une cuisine avec un invité, mais en picolant, pas qu'un peu, 10-12 verres, vous finissiez ivre-mort. Invité prestigieux, Guillaume Canet, Juliette Binoche, Stéphane Bern. Pourquoi l'émission a disparu? Pourquoi elle s'est arrêtée?
Parce que très compliqué avec justement le CSA.
C'est pas une émission télé, c'était sur YouTube.
C'était sur le digital, mais justement le CSA à l'époque voulait rentrer sur le digital, sur YouTube, et donc c'était on explorait les flous juridiques chacun de notre côté. En gros, le CSA explorait les flous juridiques et nous aussi. Et ça a été un combat, mais ça a été une lutte un peu pendant 2-3 ans qui a été très compliqué. Et au final, on a fini par lâcher l'affaire, mais on va essayer de revenir.
Alors je vais le dire, sur Internet, la chaîne YouTube existe toujours, elle a même 580 000 abonnés, mais il n'y a plus de vidéos disponibles. Monsieur Poulpe, on peut le retrouver dans Poulpe Vision, c'est sur Canal le dimanche à 14h20, dans la BD Alain au Pays des Merveilles, édition Une Case en Moins, et ce qui fait la joie de Céline Dacosta dans le podcast de Crac Crac.
Et oui, le 23 février, venez tous au Théâtre de l'Œuvre.
Avec plaisir. Et maintenant, place au Radoteur avec votre duo Stéphane de Groot et Gilles Gaston Dreyfus sur Europe 1.
Gilles Gaston Dreyfus. Gilles. Gaston Dreyfus.
Toi, c'est Stéphane de Groot.
Toi, tu dis de Groot.
Une vraie question. En France, on dit de Groot.
Oui.
Donc.
Qu'est-ce que vous disiez, du coup?
Bah, du coup,
rien.
Gilles, vous avez mis un temps fou à me dire bonjour, vous ne l'avez pas dit du reste.
On se dit bonjour tous les jours, est-ce que c'est pas un peu lassant?
C'est un point de repère. La radio, on dit bonjour.
Il n'y a pas qu'à la radio qu'on dit bonjour. Ce mercredi, vous avez des souvenirs de mercredi après-midi lorsque vous étiez écolier? Vous avez été écolier?
Bien sûr, j'ai été écolier. J'ai des souvenirs de boulangerie, de flan.
De flan. Après, vous alliez voir des expositions. Votre côté érudit, ça vient de l'enfance ou bien c'est une erreur?
Évidemment, mon éducation qui a été
sobre.
Et je salue ici mes parents et leur descendance.
On va pas faire des dédicaces, Gilles.
Comme tout le monde, je suis quelqu'un de normal.
Je suis quelqu'un de normal.
Mais oui,
je suis quelqu'un de normal.
Qu'est-ce qui vous arrive?
Ça sera pas monté, ça, Gilles. On ne monte pas n'importe quoi ou n'importe qui non plus. Ce mercredi, l'après-midi du mercredi, on peut aller voir des expositions. Est-ce qu'il y a une exposition que vous avez été voir récemment?
Ah, récemment, Vinci.
Les parkings?
Ah, bah c'est magnifique.
Vous avez trouvé une place?
On se garde à l'extérieur.
Il y a un autre Vinci aussi, non?
Léonard de Vinci. Je suis allé voir cette expo à l'heure où on parle.
Vous allez répéter chaque lettre deux fois de suite pour être sûr qu'on comprend bien.
Mais c'est
trois fois de suite maintenant.
Je conseille à tout le monde d'y aller malgré tout.
Même s'il n'y en a plus court.
Mais ça va intéresser des gens.
Donnez-nous un argument pour aller voir Vinci qui n'existe plus.
L'ombre.
Vous parlez de Gaulle. Ici, l'ombre.
Il a peint des choses sur bois avec une finesse incroyable qui sont des espèces de mouvements de draps.
C'est long, tout ça est long. Ça donne pas envie d'aller voir Vinci. Vous savez comment on fait de la dentelle, les peintres flamands, comment ils faisaient de la dentelle? Il y avait deux techniques. Celui qui faisait un aplat blanc et qui mettait des petits points noirs, ou celui qui faisait la découpe de la dentelle.
D'accord.
Là, on a appris quelque chose. Et la peau, comment ils faisaient la peau, vous savez ça?
Non.
Ils arrachaient la peau des cadavres, la collaient sur les tableaux Et il repeignait dessus.
J'allais dire un truc, je vais pas le dire parce que c'est trop horrible.
Mais ne le dites pas alors.
C'est n'importe quoi.
Ça, c'est n'importe quoi, oui. Je voulais voir comment vous alliez réagir là-dessus. Ça pourrait exister, ça.
Non, on peut pas rentrer là-dedans.
Le pied de César, c'est un vrai pied.
Il a coulé dans le bronze.
Couler un bronze, c'est pas un truc plutôt vulgaire.
Demandez à César.
Vous parlez de quel César? De Jules ou bien de...
Moi, je parle de César.
C'est comment son nom de famille? C'est la famille César?
Franchement, j'en sais rien.
César, ça vient de César.
César était un nom générique comme De Gaulle. Quand j'étais petit, je pensais que tous les présidents s'appelaient De Gaulle.
Tous les Césars s'appellent pas César. César l'artiste, c'est comment son nom de famille?
Vous le savez, vous?
Non.
Voilà, c'est tout. Vous, c'est De Groot.
De
Groot.
Pas De Groot, hein, c'est De Groot. On en a déjà parlé. On est dans le générique. On approche du générique de fin, là, vous savez?
Oui, d'accord, mais quand
French Cancan. On est arrivé au terme de ce qu'on pouvait faire, d'offrir de mieux en ce mercredi.
À demain.
À demain, Gilles.
C'était l'Era d'auteur avec Gigason Dreyfus et Stéphane De Groot. Vous les retrouvez évidemment demain à 9h55 et en podcast sur europe1.fr.
Europe 1 Culture Média.
Culture Média qui continue après le rappel des titres de 10h. On va parler culture avec Jean-Louis Aubert qui s'apprête à faire la tournée des Zéniths avec son dernier album Refuge. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu dans quelques instants. Et puis dans les indispensables, un bon vieux roman. Et c'est pas péjoratif, au contraire. Le Cercle des Hommes de Pascal Manoukian, Nicolas Caro a adoré. Puis on va parler jeux vidéo avec cette question: pourquoi n'y a-t-il pas de bons jeux de rugby? Réponse avec Clément Le Saffre.